Voix du Vent, le magazine de l'environnement.
Quels sont les sujets environnementaux qui vont faire la une en 2015? On en parle aujourd'hui dans C'est pas du vent avec nos trois invités. Hervé Kemp, rédacteur en chef du site internet d'information sur l'écologie, reporter, TE2RE.net, Sidi El Mokhtar Cheguer, président de l'ANEJ, l'association des journalistes africains de l'environnement, et François Meurice de Terra Eco, le magazine qui change le monde quotidiennement sur internet et mensuellement en kiosque. Alors, les Nations Unies, ça ne vous a pas échappé, messieurs, ont décrété que 2015 serait l'année internationale des sols. Et c'est vrai que comme nous marchons dessus, nous ne le respectons pas trop, le sol. Alors j'imagine que vous allez en parler dans vos rédactions, Hervé Kemp.
On va parler d'agriculture plutôt. Je sais pas comment dire, parce qu'on n'a pas, on va en parler. Nous, on est quotidien, donc tous les jours, il y a, je sais pas, 3, 4, 5 articles.
Il faut donner de la place aux vers de terre cette année.
Il y a eu un très beau livre d'un monsieur qui s'appelle Marcel Couche, si j'ai pas de mémoire, c'est Le Ver de Terre, qui est un livre très érudit, mais tout à fait passionnant. Donc voilà, ça, c'est une bonne piste pour aller creuser nos galeries. Il paraît que les vers de terre creusent 5000 kilomètres de galeries dans un hectare de terre. J'ai du mal à le croire, mais il paraît que c'est vrai. Donc voilà, ça peut être le genre de choses. Mais, à vrai dire, on n'est pas tellement sur l'agenda ONU, etc. Mais on va beaucoup bosser sur l'agriculture, ça c'est certain. Et dans l'agriculture, il y a évidemment le sol.
François Meurice ?
Il y a quelques mois, nous avions consacré un dossier entier de Terra Eco au renouveau du jardin en France et en Europe. C'est vrai que ces questions-là d'agriculture proche de chez nous, on parlait tout à l'heure de questions climatiques qui étaient parfois un peu loin des gens, des préoccupations des citoyens, même si elles sont évidemment très très importantes. Voilà, le jardin, des choses comme ça, très simples, elles sont toutes proches de nous. Et le jardin, l'artificialisation des sols, des grands projets par exemple, plus ou moins utiles, dirons-nous, en France, ça rentre dans ces questions-là. Au quotidien et proche de chez nous, il y a des choses à faire autour des sols.
Sidi El Mokhtar Cheguer, les terres arides représentent 43% de la superficie du continent africain et elles abritent quand même 40% de sa population, et ça ne va pas s'arranger avec les changements climatiques.
Oui, alors, ajoutez-y un demi-milliard d'Africains concernés et vous avez là tous les ingrédients d'une catastrophe annoncée. Effectivement, le phénomène touche de plein fouet l'Afrique, et je peux vous dire que les conséquences directes sont affreuses. Beaucoup de flux migratoires, la précarité, les accroissements anarchiques des périphéries des villes, et la pauvreté, la décadence, etc. Depuis 1900, il semble que l'avance des sables vers un front sud a progressé de 250 km sur une bande de quelque 5000 à 6000 km qui s'étend d'est en ouest. Alors, la Mauritanie, puisque je suis en Mauritanie, en la matière, c'est un cas très particulier. Le pays est quasiment tout entier hyper aride. Des villes entières sont menacées dans ce vieillissement, notamment dans le nord. Ce sont d'ailleurs des villes historiques qui appartiennent au patrimoine culturel mondial sous l'égide de l'UNESCO. Et dans certaines contrées du pays, les dunes de sable, tenez-vous bien, se déplacent de 2 à 3 km par an. Et avec la démographie galopante du continent et la rareté des pluies, s'aggrave et provoque davantage encore de sécheresse, qui à son tour accentue la désertification. C'est un cycle infernal, un peu comme l'effet boule de neige.
Alors, s'il y a un pays que nous allons regarder attentivement cette année, j'imagine chacun dans nos rédactions, c'est le géant chinois. Et Yan Mei de la rédaction chinoise de RFI nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour Anne-Cécile Bras.
Alors, quels sont les sujets que vous allez suivre de près cette année ?
Eh bien, en Chine, cette année commence avec la mise en application de la nouvelle loi sur l'environnement, qui est censée être beaucoup plus sévère par rapport à celle qui est en application jusqu'à maintenant. Et cette nouvelle loi donne la possibilité de traduire en tribunal pénal des accusés des crimes environnementaux. Le premier cas de condamnation a eu lieu le 5 janvier. Un entrepreneur dans la province de Hunan a été condamné à 1 an de prison ferme et 10 000 yuan d'amende pour avoir pollué l'eau de la rivière locale en faisant des activités de nettoyage d'acier.
10 000 yuan, ça fait combien d'euros à peu près ?
Ça fait à peu près 1 200 euros.
Mais alors le problème en Chine, c'est pas toujours l'absence de loi, c'est le fait qu'il faut que ces lois soient appliquées.
Exactement, comme ce qu'a dit un activiste environnemental chinois. Lorsque ce texte a été adopté en avril dernier par l'Assemblée populaire de Chine, il nous a dit que le problème en Chine, ce n'est pas qu'il n'y a pas de loi, mais que ces lois ne sont pas toujours appliquées, puisque la justice, comme chacun sait, n'est pas indépendante en Chine. Et puis, elle ne condamnera jamais de toute façon les responsables d'entreprises qui sont protégés par le pouvoir.
Alors cette loi a aussi supprimé le plafond des amendes, hein, puisqu'avant il y avait un plafond imposé aux entreprises les plus polluantes.
Oui, effectivement, et dans le cas où les entreprises ne collaborent pas, la loi donne même la possibilité aux autorités de détenir les responsables pendant une durée de 15 jours, en leur faisant verser quotidiennement une amende. Et 6 entreprises en Chine ont déjà été condamnées récemment à un montant record de 160 millions de yuan, ce qui fait environ 21 millions d'euros. Et les médias chinois ont largement rapporté cet événement et cette condamnation constitue une sorte de prélude pour la mise en application de la nouvelle loi puisqu'elle a eu lieu le 30 décembre 2014, 2 jours juste avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Et cela montre que les autorités veulent vraiment donner un signal fort aux entreprises polluantes pour les dissuader de préférer payer une sanction financière plutôt que de se conformer aux droits.
Alors les ONG peuvent désormais aussi plus largement saisir la justice et ça, ça risque de vous occuper en 2015.
En effet, oui, la nouvelle loi donne non seulement la possibilité aux ONG de saisir la justice, mais en plus, cette possibilité est étendue dans l'ensemble du territoire chinois, sans limitation de juridiction. Ce qui veut dire qu'une ONG inscrite au sud dans le canton a la possibilité d'attaquer en justice une usine polluante de Pékin. Donc ça, c'est en effet un changement énorme. Mais il faut surtout souligner que les ONG en Chine ne sont pas parfaitement indépendantes. Et certains sont en étroite relation avec les autorités, voire carrément dirigés par les gens du gouvernement.
Alors malgré tous les bémols qu'on peut rajouter sur la nouvelle loi, c'est quand même un moyen de démontrer clairement la volonté du gouvernement chinois d'atténuer la pollution. Alors 2015, c'est aussi l'année de l'établissement du 13e plan quinquennal, hein, qui est très attendu et qui sera appliqué l'année prochaine. Alors il y a déjà quelques indices.
Oui, en effet, on sait que les chapitres sur l'environnement sont en train d'être élaborés et on sait déjà que les objectifs clairs et précis seront établis sur la diminution de CO2 par unité de PIB et pour limiter les autres gaz et éléments polluants. Enfin, 2015 est aussi le grand rendez-vous de la conférence de l'ONU sur le climat à Paris. Les négociateurs chinois ont déjà annoncé lors du sommet de Lima que la Chine allait annoncer ses contributions concrètes et chiffrées en début d'année ou tout au plus tard à la fin du premier trimestre de cette année. Et par ailleurs, la presse chinoise parle beaucoup de la mise en place sur tout le territoire chinois d'un marché de carbone unique à la fin de l'année, pour faire payer les pollueurs, puisque les essais sur les 7 villes chinoises mises en place depuis fin 2011 se sont révélés concluants.
Merci Yann Mei de la rédaction chinoise de RFI.
Merci à vous.
Hervé Kempf, cette loi qui condamne plus largement les crimes environnementaux en Chine, c'est une bonne nouvelle, si elle est appliquée bien entendu.
Oui, je suis ignorant du sujet, donc j'écoutais avec beaucoup d'attention. Oui, ça paraît une bonne nouvelle. Moi, ça me paraît être, mais je suis très peu averti de Chine, donc je parle très prudemment, mais il y a quand même eu ce qui s'est passé en novembre, la décision chinoise à travers l'accord entre Obama, quand il était venu à Pékin, et le président chinois, un accord entre les États-Unis et la Chine sur le climat, et aussi l'engagement à ce moment-là très important du président chinois de dire nous allons plafonner nos émissions avant 2030 le plus tôt possible. Et ça, c'est vraiment un tournant majeur. Parce que depuis le début de la négociation sur le climat, donc depuis 1992, la Chine disait toujours « nous sommes un pays du Sud, nous sommes un pays pauvre et donc c'est à vous les pays riches de prendre des engagements ». Et jusqu'à présent, la Chine s'était toujours refusée à envisager un plafonnement des émissions. Maintenant, c'est acté, c'est officialisé au plus haut niveau. Après, on va voir ce que le gouvernement chinois va en faire, mais c'est vraiment, à mon sens, un tournant important dans cette négociation qui, par ailleurs, a beaucoup d'aspects pessimistes ou décevants.
François Meurice, c'est intéressant de voir ce changement de la mentalité de la Chine qu'on a déjà vu dans l'ancien plan quinquennal, hein, qui date d'il y a 5 ans.
Ces préoccupations montent. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours, même dans l'actualité médiatique, un jour, on va apprendre une pollution gigantesque en Chine, on va relire des choses au niveau social sur le travail des gens en Chine. Et de l'autre côté, il y a vraiment quelque chose qui monte autour de ces préoccupations-là là en Chine. Et on a l'impression qu'il y a un double discours, alors une espèce de schizophrénie un petit peu à la tête du pouvoir chinois. On espère qu'on va aller du bon côté, évidemment.
Sidi El Mokhtar Cheguer, la Chine fait partie avec le Vietnam, hein, des pays de destination du trafic des espèces sauvages qui ne cesse de s'accroître sur le continent africain.
Oui, absolument. C'est un problème aussi récurrent ici en Afrique. Nous nous allons probablement dans les 10 prochaines années perdre 20% des 500 000 éléphants qui se trouvent sur les terres africaines. Et rien que l'année 2012, les braconniers en ont abattu 22 000. Et la principale destination était justement les pays asiatiques comme la Chine et le Vietnam. Donc c'est un problème effectivement récurrent, mais de mon point de vue aussi, il faut quand même se féliciter que la Chine commence à prendre la mesure du danger. Et l'accord dont on parlait tantôt à Pékin entre les Chinois et les États-Unis en escroque la preuve. C'est quand même quelque chose de méritoire et c'est important.
Des questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Écoutez, c'est pas du vent sur RFI. Nous parlons des dossiers environnementaux de l'année 2015 avec nos invités. Voyons maintenant ce qui va se passer dans le monde anglo-saxon avec Roselyne Ayams de la rédaction anglaise de RFI.
On va regarder le changement climatique, surtout avec la conférence de Paris en décembre 2015. On a toute une année pour faire ça. Par exemple, dans certaines régions, on voit que les pays vont être obligés et qui commencent déjà à regarder comment ils vont s'adapter à la fonte des glaces dans l'Arctique. S'il n'y a plus de glace permanente, comment protéger ses frontières? Il y a plusieurs pays, les États-Unis, le Canada, la Russie, la Norvège, le Danemark, qui vont avoir à regarder comment sécuriser leurs frontières, quelles seront les décisions géostratégiques, ce qui est non négligeable.
L'un des grands enjeux, ça va être aussi de voir comment tous les pays s'intéressent aux questions énergétiques. Et en Grande-Bretagne, par exemple, actuellement, il y a un débat législatif.
Il y a eu une loi en 2008 qui disait que les gouvernements successifs devaient justement réduire les émissions à effet de serre pour que la Grande-Bretagne rentre dans le projet de l'Union européenne. Maintenant, il y a une autre loi qui est sur la table, qui s'appelle The Infrastructure Act, qui prévoit d'utiliser au maximum des réserves fossiles de la Grande-Bretagne dans un but d'aider le développement économique. Et donc ces deux lois paraissent contradictoires.
Et vous suivez de près ce qui se passe aux États-Unis. Et là aussi, politiquement, évidemment, c'est très intéressant, notamment le débat sur l'énergie.
Effectivement, surtout, on voit Barack Obama en fin de mandat et aujourd'hui avec un congrès à majorité républicaine. Il y a le projet de ce grand oléoduc Keystone XL qui, depuis le Canada, achemine le pétrole tiré des sables bitumineux vers le Texas et aussi vers d'autres États dans le Sud. Et notamment, il y a des inquiétudes des écologistes dans le Nebraska, dans une zone où cette nouvelle partie de l'oléoduc devrait passer. Le président Obama ne veut pas que cette phase de construction continue, ils veulent stopper. Parmi les républicains, il y en a qui veulent vraiment avancer avec ça, encourager l'industrie pétrolière qui, comme on le sait, est très forte aux États-Unis.
D'autant plus que Obama arrive à la fin de son mandat, donc il va vouloir donner le change un petit peu à ses électeurs et par rapport aux engagements qu'il a pris.
Exactement. La Maison-Blanche, cette semaine, a menacé d'utiliser le veto dans le Congrès pour stopper, si nécessaire, l'avancée de ce projet.
Roselyne Ayams de la rédaction anglaise de RFI. Hervé Kem, c'est vrai que ça va être compliqué pour Barack Obama cette année, hein?
Oui, mais en même temps, en écoutant les différents reportages ou les différents correspondants, il y a quelque chose qui frappe, c'est que ce soit pour la France, que ce soit pour la Chine, que ce soit pour les États-Unis, que ce soit pour l'Angleterre, on est vraiment face à un double discours, face à une sorte de schizophrénie. C'est-à-dire à la fois la prise de conscience chez un grand nombre de dirigeants que la question climatique et la question écologique est importante, est pressante, demande des mesures fortes. Et en même temps, on continue sur une voie et un système économique qui va à l'encontre de cet objectif.
Un décalage entre les mots et les actes.
Voilà, alors on a parlé du cas de la France, la Chine, on a dit il y a des progrès, mais on n'a pas eu le temps de dire que le gouvernement chinois reste axé sur l'objectif d'une croissance forte, parce que même 6 ou 7% de croissance par an, ça reste vertigineux, que tout ça s'appuie dans une société, se développe dans une société qui est très inégalitaire, et donc qui crée, par exemple, on a parlé du trafic des espèces rare d'éléphants avec l'Afrique, c'est largement lié au fait qu'il y a une nouvelle classe riche qui se moque complètement de l'environnement et qui veut user du maximum de consommation. Et aux États-Unis, on a cette opposition entre Monsieur Obama peut-être et le Congrès, mais plus largement, c'est la position de Monsieur Obama lui-même de pas remettre en cause l'American Way of Life, qui est un way of life, un mode de vie de surconsommation et de consommation maximale des ressources, etc. Et là, on a cette vraie contradiction dans tous les pays. En tout cas tous les pays qu'on a pu citer, qui pour l'instant est insoluble.
François Meurice.
Oui, c'est vrai que en plus sur ce dossier très précis de l'oléoduc, on parlait de effectivement des problèmes sur le tracé de l'oléoduc en tant que tel, mais au départ les sables bitumineux, rappelons-le, c'est une des extractions les pires au niveau environnemental et donc ça c'est au Canada, tandis qu'aux États-Unis là c'est le gaz de schiste plein gaz, voilà. Donc c'est alors, effectivement toute cette contradiction qui est là.
Ça devient moins rentable avec la baisse du prix du pétrole. Ça sera aussi à scruter durant l'année 2015, Eric Hemp.
Oui, un petit mot. Cette contradiction entre les discours et la réalité économique a été mise en évidence par un article scientifique qui est paru cette semaine, début janvier, donc dans Nature, l'hebdomadaire scientifique, et qui en gros explique qu'il y a un budget de carbone pour toute la planète. Si on veut ne pas dépasser 2 degrés de réchauffement à l'horizon de 2050 par rapport à l'ère pré-industrielle, ce qui est déjà élevé et important, 2 degrés de réchauffement, eh bien, il faut qu'on laisse dans le sol, en gros, 2/3 des réserves connues de combustibles fossiles, de charbon, de pétrole et de gaz. Et donc là, il va falloir faire des choix. Si on n'arrive pas à faire les choix, on ira vers le changement climatique, quels que soient les discours et les traités.
Orlando Torricelli de la rédaction Amérique latine de RFI nous a rejoint. Bonjour Orlando.
Bonjour Cécile.
Vous suivez entre autres les sujets environnementaux sur le continent sud-américain et ils seront nombreux en 2015.
Oui, voilà, Cécile, les défis sont multiples dans des domaines très différents qui vont du strictement environnemental au social-économique en passant par la santé. Pour simplifier, on peut les diviser en 2 groupes. Les premiers, directement liés au réchauffement de la planète. Par exemple, on peut prendre le cas du Brésil, qui est un véritable pays continent. Selon les projections faites par des spécialistes, un réchauffement de 2 degrés pourrait entraîner une réduction des récoltes de l'ordre de 70% dans les cas de soja, et tenez-vous bien, et de presque 50% de celui du maïs. C'est énorme, ce sont des chiffres qui se passent des tout commentaires. Au-delà de l'impact purement économique, il faut songer aux populations, l'accès aux aliments, les vagues migratoires, la santé publique, etc. Et un autre danger, qui est aussi directement lié au réchauffement, et c'est pas nouveau puisqu'il a été détecté depuis des décennies, c'est la fonte des glaciers indiens. Au début, c'était un phénomène presque curieux. Je me souviens très bien de la disparition de la plus haute station de ski au monde, en Bolivie, sur les glaciers de Chagaltaya, en 2009, mais qui est passé une brève, comme on dit dans notre jargon. Mais les problèmes n'est pas seulement que les gens ont été privés des sports d'hiver. Les problèmes, ce sont les 2 millions de personnes de la capitale, La Paz, qui ont besoin de cette eau. Et on retrouve les mêmes problèmes dans d'autres pays voisins, comme le Pérou, par exemple.
Alors, il y a aussi les enjeux de l'exploitation minière que vous allez suivre de près parce qu'ils prennent de plus en plus d'ampleur.
Oui, tout à fait. Ces dernières années ont connu une accélération fulgurante des projets miniers. L'Amérique latine est devenue dans les années 2000, grosso modo, la première destination mondiale des investissements dans l'exploitation minière. Alors, ces méga projets qui sont menés par des corporations transnationales mettent en danger la qualité et la disponibilité de l'eau qui est, comme tout le monde sait, l'industrie minière utilise des énormes quantités en dégradant et en polluant les sources. Sans oublier un autre phénomène très important qui est on peut appeler la fièvre de l'or noir en Argentine, après la découverte de Vaca Muerta, un énorme gisement de gaz de schiste, deuxième réserve mondiale, et de pétrole, la quatrième réserve mondiale, dans la Patagonie, dont les travaux ont ralenti ces derniers temps à cause de la chute des prix, mais qui devrait reprendre bientôt avec la technique bien connue du fracking. La technique de la fracturation hydraulique qui, comme tout le monde sait, est très controversée. En résumé, à Cécile, une année assez riche en matière de défis que nous suivrons attentivement à la rédaction Amérique latine de RFI.
Merci Orlando Torricelli, donc de la rédaction Amérique latine de RFI.
Merci à Cécile.
Alors Sidi El Mokhtar Cheguer, c'est vrai que l'eau est une problématique évidemment en Amérique latine, mais bien entendu aussi en Afrique.
Absolument, c'est même le gros problème. On estime que c'est même le premier frein au développement et le réchauffement climatique complique encore le problème. L'eau est pourtant abondante sur le continent. La plupart des sources ne sont pas exploitées. Les populations n'y ont pas accès. Parmi les populations, 65% n'ont pas accès à des sources d'eau potable. Donc c'est véritablement un gros problème. Mais il me semble important de souligner, avant que l'émission ne finisse, l'important défi en Afrique, ce sont des scandales environnementaux. C'est la corruption, c'est la mauvaise gouvernance environnementale, c'est la faiblesse du droit environnemental. Les contrats sont mal ficelés, je pense aux contrats avec les sociétés minières, et il y en a des contrats avec les sociétés minières, les sociétés de pêche, les sociétés de pétrole, etc. Donc, je vous laisse un peu deviner l'ampleur que peuvent causer les scandales de ce genre dans un continent de 54 pays et qui ne sont pas particulièrement des modèles de bonne gouvernance.
Ce sont des sujets évidemment que l'on suivra dans ces pas du vent. Alors rapidement, on arrive en effet à la fin de cette émission. Au-delà de vos métiers de journaliste, vous avez des projets au sein de vos différents médias pour aller justement à la rencontre de vos lecteurs. Alors sur Reporter, qu'est-ce que vous allez faire cette année ?
Non, ça fait partie de notre travail de journaliste. C'est vrai que le mot de pédagogie, c'est important ce que tu dis. C'est qu'on se rend compte que en fait, il y a eu un recul de la conscience écologique et de la culture écologique, en tout cas en France, depuis quelques années. C'est-à-dire que l'époque qui a précédé les années de Copenhague, 2007, 2008, 2009, c'était lié en France à la fois à la perspective de Copenhague, au Grenelle de l'environnement et un certain nombre d'éléments comme ça, d'Al Gore aussi par exemple, eh bien la conscience et la culture écologique s'étaient répandues. On s'est rendu compte depuis peut-être un ou deux ans que beaucoup de gens ne savent plus des choses qui nous paraissaient des lieux communs. Donc on va essayer de travailler pour simplement rappeler des choses de base. C'est quoi la crise de l'eau? C'est quoi le changement climatique? On parle de zones humides, de quoi s'agit-il, etc. Donc ça va être un axe. On va aussi organiser des rencontres publiques, qui sont un prolongement de notre travail journalistique, qui est en fait un mode d'information. Et on en a déjà deux prévues. L'une, c'est sur l'agriculture et le climat. C'est
c'est très important. Et l'autre, c'est sur les pesticides, à la fois pour rappeler la gravité de l'impact de la santé de l'usage des pesticides, et aussi, surtout, c'est très important de dire il y a des solutions alternatives. On peut faire mieux avec des résultats tout à fait excellents.
Voilà, tout cela sera à lire et à suivre sur le site www.reporter.net. Et à TerraEco.
Alors nous, nous allons mettre l'accent, continuer à mettre l'accent sur une certaine horizontalité, on va dire, des rapports entre journalistes et lecteurs. C'est-à-dire que nous allons lancer, comme nous avons pu le faire déjà ces derniers mois, des défis à nos lecteurs de leur vie quotidienne pour voir justement, on en parlait tout à l'heure, comment changer au quotidien son action, sa vie quotidienne. Donc ça peut être des défis sur le transport, l'alimentation, la consommation. On va voir un petit peu autour de quoi ça tourne. Et dans l'autre sens, évidemment, les lecteurs vont nous lancer des défis aussi et quelques tests. Voilà, on va essayer de mettre ça en place et de passer la deuxième vitesse là-dessus.
Alors Sidi El Mokhtar Cheguer, la neige a aussi évidemment de nombreux projets pour cette année, notamment de mobiliser les enfants des pays africains pour faire pression sur les chefs d'État. On en reparlera évidemment au courant de l'année. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde. Pour réagir ou témoigner sur ce qui se passe près de chez vous, écrivez-nous à cestpasduvent@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, hashtag cestpasduvent. Demain, nous parlerons de la baisse du prix du pétrole, du tour de l'Afrique, des innovations ingénieuses, et nous irons à Taïwan, où une tribu indigène a développé un écotourisme innovant. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres, et à demain, même planète, même heure.